RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, coup d'envoi des GG, des grandes gueules, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à midi, 3h pour discuter, pour débattre, 3h à passer ensemble, avec vous au 32-16 bien sûr, bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Zora Bitton, cadre de la fonction publique, bonjour ma chère Zora.
Bonjour à tous.
Elina Dumont, intervenante sociale, nous accompagne aussi.
Il y a Zora, ça me va bien aussi.
Zora Dumont.
Zora Dumont, ouais.
Bah bonjour à tous.
Et Elina Bitton.
Et Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour mon cher Didier.
Salut Alain et bonjour à la profonde.
Ça a gelé chez toi alors ?
La frange profonde qui grelotte, ouais, ça a gelé fort lundi matin, un peu moins hier. Encore un petit peu gelé ce matin, mais ben, voilà. Moi, j'ai pas de conséquences. Moi, j'ai produit de l'herbe pour nourrir mes vaches. Moins 4 sur l'herbe, ça fait qu'elle rentre en terre. Mais voilà, c'est de l'herbe, ça pousse. La vigne, ça repousse pas par contre, quoi. Ah. Et donc j'ai pas vraiment de détails sur les viticulteurs de la côte chalonnaise et du Mâconnais, mais forcément -3, -4, il y a de la vigne de toucher. Hein,
j'ai entendu les météorologues qui disent que c'est pas exceptionnel.
Non.
Le froid au mois d'avril, on parle même des 5 glaces mois de mai.
Il y a même quelques facteurs aggravants cette année.
Oui, mais on s'est habitué à la douceur et donc quand il refait froid, non,
on a plus la douceur de cet hiver a masqué le fait que c'était l'hiver. Après, il y a un vieux dicton de grand-père qui dit que les années de 13 lunes, c'est quand même des années de rien, quoi.
Ça veut dire quoi ?
Eh ben, cette année, c'est une année bissextile et il y a 13 lunes sur l'année. Tu sais, la lune renouvelle. Et normalement, c'est 12 lunes et une fois de temps en temps, c'est 13 lunes puisque ça décale.
Et ça change quoi ?
Et ça change quoi ?
Ben, j'en sais rien, mais enfin, j'ai pas d'explication.
C'est comme la lune rousse, ça change quoi ?
Non, mais j'ai pas d'explication.
C'est des
physique.
Années de rien, t'as dit ?
Oui, les récoltes sont mauvaises.
Ah, les
années de 13 lunes, les récoltes sont mauvaises. Ouais. Et c'est un vieux dicton qui se vérifie quand même parce que les années de 13 lunes, je crois que c'est que les années bissextiles.
Oui. Au gamin, moi, on a toujours dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et celui-là, finalement, c'est ce qui s'avère.
Oui. Ce qui était exceptionnel, c'est pas le gel de cette semaine, c'est les 30 degrés il y a 15 jours.
C'est
ça qui est exceptionnel,
bien sûr. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules, avec Elina Dumont, notre camarade intervenante sociale, ancienne SDF. On va parler tout à l'heure à 10h20 du nettoyage social dans Paris qui continue. C'est-à-dire, on fout la misère dehors pour préparer les Jeux Olympiques. Et Elina, elle en est témoin, donc elle nous racontera ça. Et si vous en êtes témoin, vous aussi, c'est au 32-16 que vous venez en discuter avec les GG à 10h, les derniers développements de l'affaire Kenji Girac. Mais on va commencer maintenant en s'intéressant à nos adolescents, plutôt à leur portable, avec ce que dit une secrétaire d'État.
RMC, les grandes gueules.
Oui, c'est face, vous savez, à la violence, aux histoires de harcèlement. On met beaucoup en cause ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qu'il y a dans les téléphones portables de nos enfants. Et du coup, la secrétaire d'État en charge de la ville et de la citoyenneté, Madame Agresti Roubache, elle-même, mère de famille, mère de ado, nous prévient, ou plutôt interpelle les parents en disant ben, il faut reprendre la main.
C'est pas seulement la ministre qui vous parle, c'est aussi la maman d'une ado. J'ambitionne de dire aux parents, reprenez confiance en vous. L'autorité, c'est vous. Et je veux revenir sur quelque chose qui me frappe ces dernières années. C'est de penser qu'un adolescent a une vie privée. Un adolescent est un mineur. Donc, les parents ont le droit de fouiller dans le téléphone, de chercher quelque chose dans la chambre si jamais il y a des stupéfiants, par exemple. Je crois qu'on
Ils doivent se mêler plus de la vie de leurs enfants.
Ils doivent s'occuper plus. Non, mais non seulement se mêler plus, et pour les protéger.
Voilà, faire preuve d'autorité, fouiller les chambres et fouiller les portables.
Oui, alors ça fait beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux, la déclaration de Sabrina Agresti-Roubache, puisqu'elle laisse entendre que les mineurs n'ont pas le droit à la vie privée, hein, c'est ce qu'elle dit. Et donc, on peut fouiller dans le téléphone, on peut aller fouiller dans leur chambre, etc. Le problème, c'est que ce qu'elle raconte peut se heurter à plusieurs textes juridiques, et notamment la Convention des droits de l'homme, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée familiale, de son domicile et de sa correspondance, et ça vaut a priori pour les mineurs. D'ailleurs, il y a un député Renaissance qui a dit, au lieu d'aller fouiller dans le portable de ses enfants. On peut installer des codes parentaux sur les applications, sur les portables, et c'est peut-être plus efficace que d'aller s'en prendre à la vie privée de son enfant. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pourriez le faire, aller fouiller le portable, bien sûr sans le dire, de vos enfants? Je rappelle que fouiller le téléphone portable de son conjoint, c'est totalement illégal. Je dis ça à Zora, à ceux qui sont mariés, Alain, Didier. Oui, on risque d'être jugé. On n'a pas le droit de fouiller le téléphone de son conjoint. Et on n'a d'ailleurs pas le droit de fouiller le téléphone de quiconque.
Alors peut-être que vous le faites déjà ou que vous l'interdisez, fouiller le portable des ados. 32-16 pour en discuter avec les GG. Zora?
Alors moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit à 1000%. Et vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est du vécu et que ça marche. D'abord, il ne s'agit pas du tout d'aller violer l'intimité de ses enfants. Jusqu'à présent, quand on est dans des environnements compliqués, où il y a des menaces de partout, où on propose à des enfants n'importe quoi, où on n'a pas la capacité de les surveiller tous les jours, on a besoin de savoir ce que fabriquent nos enfants. Et des témoignages de parents autour de moi, j'en ai déjà eu plein. Des enfants qui partagent des choses sur le djihadisme que les mamans et papas découvrent, des menaces que les enfants ont, que les parents découvrent. Je pense qu'elle a raison, elle dit c'est sanctuariser leur intimité pour ne pas justement venir parler de ce qu'on aurait pu voir sur leur portable et avoir beaucoup de respect sur leur relation intime, mais être en alerte à chaque fois sur...
Mais si tu as fouillé, tu as forcément...
Mais je vais te dire, moi mes enfants...
Tu fouilles pour chercher quoi en fait?
Parce que je voudrais savoir d'abord un qui fréquente. J'ai un ami un jour qui me dit ma fille elle n'est pas rentrée pendant 2 jours. Est-ce que tu connais ses copains? Non. Est-ce que tu as les numéros de ses copains et copines? Non. Pourquoi? Parce que ma fille a son intimité et je ne fouille pas dans ses affaires. Ok, bah tu fais comment maintenant? Donc, en fait, c'est pas fouiller. Attends. C'est pas fouiller pour fouiller.
Quand qu'est-ce que tu vas chercher comme info? C'est
ça que je veux savoir. Savoir s'ils échangent des choses illicites, dangereuses, s'ils sont victimes de harcèlement
ou quoi que
ce soit.
Ça veut dire que t'as les codes alors?
Attends, bien sûr. Et déjà, les parents sont en miroir souvent.
S'ils avec consultent ou si elles consultent des sites
exactement,
porno.
Exactement. Et s'ils sont à hameçonner par des gens et qu'ils ne le savent pas, etc., etc. Je pense que c'est une protection parce qu'on n'a pas les moyens.
C'est un manque de confiance?
Non. Moi, je vais vous dire, mes enfants, ils ont aujourd'hui 38 et 35 ans.
Tu fouilles encore dans leur portable?
Non. Mais quand ils étaient petits...
C'est eux qui fouillent dans leur portable.
Non, mais c'est hyper sérieux parce que quand tu habites dans une cité et que tu vas au boulot... Moi, à 25 ans, j'ai dit à mes enfants, mais attendez, on ne vous a jamais proposé de vendre de la drogue, mais maman, tous les jours. En fait, ils sont malgré toi... Ils sont malgré toi soumis à un certain nombre de dangers que eux-mêmes parfois ne maîtrisent pas. Donc tu peux anticiper sans aller H24 fouiller, mais de temps en temps jette un œil, fais les poches, regarde un petit peu s'ils ont pas ramené des trucs illicites. Fais gaffe, c'est pas. Mais faut arrêter avec cette sacro-sainte liberté. Alors on n'arrête pas de dire la responsabilité des parents. Ah, vous êtes responsable de tout. Et puis après on veut sanctuariser un gosse de 12 ans, une gamine de 12 ans qu'on retrouve dans des photos, dans des vidéos sexuelles partout et on découvre. Oh mince, mon gamin il s'est suicidé. On sait pas ce qui s'est passé. Mais les gosses, ils parlent pas toujours.
Les gosses, parfois, sont groupés.
Les gosses sont parfois embarqués dans des trucs qui les dépassent. Donc, si toi, t'as un œil bienveillant, c'est pas pour les guetter. Au contraire, t'accompagnes leurs amours, t'accompagnes leur vie, t'accompagnes leur quotidien. T'es un parent aimant. Et à un moment donné, si tu vois un truc, moi j'ai une copine qui me dit un jour, écoute mon fils, il commence à m'engueuler parce que tous les jours je pars en pantalon un peu serré. Je suis allée fouiller sur son téléphone, je te dis pas ce que j'ai vu. J'étais obligée de contacter une association parce que ça devenait dangereux, il avait que 14 ans. Oui. Si elle était jamais allée fouiller, elle se serait jamais rendue compte que ce môme avait été dans un réseau.
Et un jour, il aurait
pris Didier, d'accord. Voilà. Ouais,
Didier, d'accord. Alors, écoute, moi, ce que je constate, moi, j'ai jamais été un papa très présent sur ces affaires-là.
Ah, bah, c'est du beau.
Je suis un papa pudique et je prends ce que mes enfants me racontent et je vais pas plus gratter que ça, même si je m'intéresse à leur vie, mais. Après, ce que je constate quand même, c'est que entre mes enfants qui ont entre 20 et 25 et le fils de ma compagne qui a 15, il la dérive, enfin la dépendance au portable et le truc, il progresse quoi. Ah oui. Il progresse, il dérive et voilà, ça a été un peu compliqué il y a un ou deux ans donc entre Fabienne et son fils et je vois jusqu'à quel point ces conneries d'intimité, de loi, de machin. Les gamins, ils maîtrisent, quoi. Hein. À 13 ans, il lui dit le numéro vert, si tu lui en colles une, il le connaissait, quoi. Hein. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, je pense que la protection de l'enfance, elle a aussi ses limites sur l'autorité, quoi. Mmh, mmh. Parce que ce qui fait que la barrière n'est pas franchie, c'est à la fois l'autorité, la confiance, mais t'as aussi des gamins. Enfin, c'est facile de dire, comme dit la secrétaire d'État, vous avez qu'à. T'as aussi des gamins qui, malgré le cadre, passent leur vie à essayer de sortir du cadre, t'arrives chez le juge
et le juge te dit, mais vous, votre responsabilité parentale.
Ouais.
Ok, mais j'ai pas le droit de fouiller dans le portable de mon enfant.
C'est un vrai problème. Tu vois, la protection, ça va trop loin. Et après, il y a autre chose que je voudrais.
Il y a l'article.
La défenseur des droits a rappelé dans son rapport de 2022, bien qu'assis juridiquement, ce droit, le droit donc à la vie privée pour les mineurs, est peu reconnu en pratique et
connerie,
souvent bafoué. Or, sans vie privée, l'enfant ne peut devenir un individu libre, autonome.
Mais ce texte est une connerie en soi. Et je vais prendre un dernier exemple. Je vais prendre un dernier exemple, Elina. Je ne sais plus qui a dit, plutôt que la secrétaire d'État, il vaudrait mieux installer des pare-feux et des protections. Oui. Ça, c'est de la connerie aussi.
Oui.
Moi, j'ai vu Fabienne avec un abonnement à 10 euros par mois, installer un truc pour limiter le nombre d'heures par jour sur Internet. Le lendemain matin, c'était craqué, quoi.
Mais oui.
Le lendemain matin, c'était craqué, quoi. Parce que...
D'accord. Ah,
c'est bon. Moi, je ne suis pas maman, je n'ai pas d'enfant, mais je suis tata de nombreux adolescents, adolescentes et enfants. Et moi, je pense que l'autorité... Je pense déjà qu'un adolescent... à une vie privée, évidemment, quand on est parent, on sait ce qui peut se passer. Et je pense pas que l'autorité puisse passer en fouillant dans un portable, dans une chambre ou dans un journal intime, par exemple. Parce que quand t'es ado, moi-même je l'ai été, moi j'étais une ado un peu rebelle, on va dire. Hein. Je pense que plus...
Il y a des contrôles.
Attends, plus les parents, ils vont savoir que les parents... Ils vont dissimuler encore plus. C'est comme ça quand t'es ado. T'as pas le droit de fumer, tu fumes en cachette. T'as pas le droit de boire une bière, tu bois. Et moi, je pense que tout passe par le dialogue. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je travaille, moi. Et je travaille quand même dans des quartiers.
Et comment tu arrives justement à surveiller un peu, t'es pas la maman, t'es pas le papa, donc le dialogue marche quand même plus facilement à mon avis. T'arrives à discuter avec eux de ce qu'ils ont sur leur portable.
Ah ouais, moi, ils me racontent tout. Après, ça m'empêche pas de travailler avec les parents quand même. Mais malheureusement, des fois, j'ai affaire à des parents qui s'en foutent un peu, quoi. Faut dire la vérité, quoi.
Oui.
Parce que les parents, vraiment, genre, Zora, eux, tout de suite, ils vont dire, ah ouais.
Mettons-nous en situation. C'est-à-dire que t'as un doute.
Ben oui.
Voilà, ou quoi que ce soit. Comment tu fais? Tu vas voir ton gosse, donne-moi ton portable.
Mais non, va en cachette. Attends, moi j'ai jamais. Ils ont jamais su que je fouillais.
Ouais, parce que moi les gamins, je les vois bien changer le code.
Tu l'assommes, regarde ce qui compose.
Mais
quand c'est les yeux, tu l'assommes et puis ensuite tu l'ouvres les paupières et tu lui mets les yeux devant le téléphone.
Mais non, mais je surveille, mais je guette, mais c'est trop flippant. Mais t'imagines, tu passes à côté d'un énorme truc où ton enfant est en danger, mais vous êtes dingue.
Mais tu sais que
ton mari est très inquiet, il t'écoute, il dit
ouais,
Moi, je serai ado là en 2024, me connaissant, je changerai vite le code et j'irai je comprends pas maman, il marche plus le portable. Non mais quand t'es ado, t'es toujours comme
c'est
ça.
Rusé, ouais.
Mais oui,
on va passer par les moyens techniques pour faire ça aujourd'hui. Didier, quoi. On va passer par le 3216 dans les Alpes-Maritimes, s'il vous plaît, écoutez Blandine. Bonjour Blandine.
Bonjour à tous.
Bonjour Blandine.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit la secrétaire d'État et ce que défend aussi Zora? Il faut fouiller dans les portables ou pas?
Eh ben moi je fouille. C'est pas beau. Oui. J'aime pas ce mot et je dis pas que je fouille. Moi je surveille.
Merci Blandine.
Que bah, de rien. Et au petit passage Zora, je vous adore.
Merci. Alors, la connaissez mal
entre fouilleuses.
Ouais c'est vrai. Et surveiller, fouiller, c'est pas pareil.
Responsable.
Voilà, moi je fouille pas. C'est-à-dire que
elle fouille pas, tu vois.
Elle surveille.
En fait, c'est pas fouillé, c'est-à-dire que je ne cherche pas absolument la petite bête, mais je check les groupes qu'elle a, puisqu'elle a 12 ans, donc elle a Alors, voilà. Je ne sais pas si on peut citer les marques, mais dans la famille, on a tous le même téléphone à pomme. Mmh. Et il y a une super application qui s'appelle Family Link, sur lequel oui. on lui a mis... Alors, je précise que ma fille a pris un téléphone. Je lui ai donné un téléphone parce qu'elle prend le bus toute seule. Et que, ben, vu l'heure actuelle, je préfère avoir un œil de savoir où elle se trouve et je peux surveiller sa position. C'est juste pour ça qu'elle avait un téléphone. Mais de fait, elle a mis des groupes. Et donc, je surveille les groupes. Je ne surveille pas les discussions, je ne rentre pas. Mais ça m'a permis l'année dernière de voir que ma fille avait eu une grosse embrouille avec une autre adolescente. La maman m'a averti. De là, j'ai pris son téléphone, j'ai regardé les conversations et je suis tombée sur une conversation où c'était juste pas possible. Je ne reconnaissais pas ma fille. Elle avait des propos hallucinants et méchants. Et on a mis le holà tout de suite. Je suis allée au collège. J'ai même mis un vocal sur ce groupe voilà. parce qu'il y avait tous les enfants de la classe en leur disant que c'était juste impossible à leur âge qu'ils aient des discussions comme ça et qu'ils s'insultent à tout va. Et que j'espérais que les autres parents auraient un regard sur cette discussion. Et j'étais prête à discuter avec d'autres parents. Et donc, je ne suis pas, mais j'ai la main prise. À côté de ça,
en fait, vous avez été un parent protecteur.
Mais Blandine,
est-ce qu'il ne faudrait pas, Blandine, s'interroger aussi sur l'âge qu'ont les enfants et l'accès à ce qu'ils ont, ils ont accès. Non, peu importe.
Eux, ils ont tout
parce qu'à un moment donné, on dit un téléphone, mais c'est pas un téléphone, c'est un ordinateur comme avait la NASA en 1960 qu'ils ont entre les mains, quoi.
Moi, si je peux juste vous dire un truc, j'ai deux enfants. Donc, j'en ai un qui a 22 et ma fille qui a 12. Donc, ils ont 10 ans d'écart. Donc, c'est deux époques totalement différentes. Ma fille a vraiment baigné dedans. Ils ont grandi avec. On peut tout leur interdire. À côté de ça, moi, ma fille, elle est au scout. Au scout, il n'y a pas de téléphone, en fait. Donc, elle part des fois une semaine, un week-end et elle apprend la vraie vie. Et c'est pas les scouts cathos, machin, et pas du tout. Il y a toutes les religions dans son groupe. C'est un super truc pour aider les gamins à décrocher de leur téléphone. Elle vit des moments incroyables. Mais oui, la vie fait que, malgré tout, et à l'école aussi, hein, parce qu'à l'école, ils nous saoulent avec leurs écrans, leurs machins, leurs trucs. Moi, ma fille, elle est obligée de faire des devoirs sur les écrans. On a des QR codes, on a des applications. Alors, ils sont bien gentils avec leur loi, leur machin. Moi, je suis maman. Je pense que je suis assez responsable. J'ai pas fait des enfants délinquants. Et je ne regrette pas. Et tout le monde peut me critiquer, je m'en fous totalement.
Non, Blandine, vous êtes un parent protecteur et bienveillant et responsable.
La franchise de Blandine qui surveille, qui regarde et qui intervient aussi, c'est ce que vous nous avez raconté.
Mais bien sûr.
Blandine, je vous remercie d'avoir été avec nous, Blandine, du côté des Alpes-Maritimes. Bonne journée, Blandine.
Merci, vous aussi, bonne journée.
Des Alpes-Maritimes, nous serons dans un instant dans les Hauts-de-Seine avec Xavier. Il est expert en cybersécurité, justement, et il surveille le téléphone de sa fille. Il dit, on a un rôle d'éducation, on ne doit pas passer à côté. Il nous expliquera comment il fait. Fouiller le téléphone des ados, aujourd'hui, vu les risques encourus, vous le faites ou pas, vous vous l'interdisez ou pas. À tout de suite avec les GG.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Discussion et débat dans les GG, discussion, débat et témoignage, comme celui de Blandine il y a quelques instants à propos des portables des jeunes, des adolescents, de nos enfants. La secrétaire d'État en charge de la ville, Madame Roubache, Agresti Roubache, voudrait que les parents fassent preuve d'autorité et regardent les portables des enfants au nom de la lutte contre la violence, au nom de la lutte contre le harcèlement. Oui, elle est à fond pour, c'est ce que nous a expliqué Zora. Dialogue, c'est ce que dit aujourd'hui Elina Dumont. Et on en parle aussi avec Didier Giraud et avec Xavier, qui nous appelle donc des Hauts-de-Seine. Bonjour Xavier.
Bonjour les GG.
Est-ce que vous êtes pour cette ligne, on regarde les portables alors?
Eh ben moi je suis totalement pour regarder l'ordinateur ou le téléphone de ma fille. Par contre, ce n'est pas fiqué. J'ai un contrat moral avec ma propre fille qui est au courant. Et ça fait partie, en fait, de notre rôle de parent, de notre obligation parentale. Quand on se marie, le maire nous rappelle bien nos obligations vis-à-vis des enfants. Et ce n'est pas réduire ou bafouer la liberté de communication de l'enfant. Par mon métier, j'ai vu pas mal de choses. Et du coup, c'est un rôle vraiment d'éducation. Ma fille, je lui dis, voilà, n'importe quel moment, je dois pouvoir arriver et regarder ses communications ou autres. Et avant le 8 mai, c'est que ma fille, elle s'est faite alpaguer parce que tous les enfants aujourd'hui, les adolescents, on les voit à la sortie de l'école qui font des jolies photos d'elle avec la belle mèche bien placée, etc. Les informations sont publiques. Vous ne connaissez pas la personne, mais vous avez son numéro, vous pouvez voir la photo de la personne. Et ma fille, il y a des gens qui l'ont ajoutée, qui se sont fait passer pour des adolescents, ça n'était pas. Et j'ai expliqué à ma fille, non, tu ne commences pas à communiquer avec n'importe qui. Comme pareil, quand on part en vacances, les photos, tu les postes une fois qu'on est rentré pour éviter le cambriolage.
On est passé par le dialogue, on est d'accord.
Mais il y a du dialogue. Je discute avec ma fille, mais par contre, c'est à n'importe quel moment, je lui dis, Là, maintenant, je veux voir tes communications, je veux voir avec qui tu
parles. Mais ça, vous empiétez sur sa vie privée. C'est un peu comme si, par exemple, vous découvriez sous son matelas son journal intime. Voilà. Est-ce qu'il faut aller lire le journal intime parce qu'on pense que la fille va pas bien, etc. Moi, je trouve que c'est ça pose question. Quand même.
Alors, je ne lis pas en détail les messages. Je regarde surtout avec qui elle discute ou autre, etc. Parce que, par exemple, moi, je fais quasiment toutes les sorties d'école de ma fille. Ouais. Et des fois, j'interviens parce que je vois des scènes qui sont inadmissibles, de harcèlement, etc. Et j'interviens, ce qui me fait halluciner, c'est les autres parents qui n'interviennent pas, mais c'est un autre débat. Mais c'est surtout, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'applications qui permettent de contourner le contrôle parental, ce qui est quelque chose qui est très difficile, parce que pareil, le contrôle parental, dans ce cas-là, c'est aussi limiter les libertés. C'est aussi bafouer la liberté.
Non, parce que vous pouvez, par exemple, dire tu n'as pas le droit à telle ou telle application. Le portable, c'est vous qui le payez, vous pouvez fixer des règles.
Voilà,
c'est pas la même chose de fixer les règles que d'aller regarder des messages derrière le dos de votre fille. Pardon,
parce
pour
que
moi,
tu crois que si un adolescent veut dériver, il va rester dans les règles.
Allez-y, Xavier. Ouais,
vous partez du principe que les adolescents vont dériver.
Non, mais il y en a.
Il existe une application qui se fait passer pour une calculatrice. Donc, en fait, le parent, il pourrait très bien dire ah, bah, c'est bon, dans ces applications, c'est qu'une calculette. Et j'accepte qu'il l'installe. Mais en fait, cette calculette n'est pas une calculette, c'est un véritable coffre-fort qui permet de faire des communications non surveillées par les parents. Je ne regarde pas au mot près les messages de ma fille. Je regarde l'usage qu'il en est fait et les fréquentations de savoir est-ce qu'elle connaît réellement cette personne.
Mais justement, Xavier, est-ce que, par exemple, quand vous dites « Allez, on va regarder ce que tu fais avec qui tu discutes », est-ce que vous êtes sûr de pouvoir accéder à tous ces groupes WhatsApp, à tous ces comptes TikTok? Voyez où
alors, elle n'a pas TikTok parce que, en fait, depuis que je suis
alors elle n'a 11 ans, hein. Ouais.
Elle n'a 11 ans, mais en dehors de ça, c'est que par exemple, ça fait partie du travail de l'éducation. Je suis allé au restaurant avec mes filles et à un moment, je leur ai dit observez autour de vous. Elles ont vu une table où il y avait 6 gamines qui ne se parlaient pas, qui étaient toutes sur leur téléphone, et les filles, elles ont réalisé que c'était triste, et c'est ma fille d'elle-même qui a dit, je ne veux pas TikTok, je veux pas ce genre de truc. C'est l'éducation. On revient toujours au thème, c'est l'éducation.
D'accord. Le dialogue et l'éducation privilégiée par Xavier. Alors, Xavier, vous allez entendre le témoignage de Jonathan, qui est avec nous, qui est dans le Loiret. Bonjour, Jonathan.
Salut, grand gueule.
Vous êtes chef de cuisine. Est-ce que vous surveillez vos enfants, vous regardez les portables, vous les demandez, ou vous leur posez pas la question et vous allez vérifier.
Non, je leur demande. Je prends de temps en temps, je prends les téléphones, je jette un œil sur les téléphones. Et puis voilà, je regarde les messages, je regarde ce qu'elles font sur Internet. Enfin, c'est pas du flicage, c'est juste la
protection. Voilà, elles ont quel âge?
Elles ont 11 ans. Enfin, avoir 12 ans ma deuxième et ma grande va avoir 15 ans.
C'est donc, de la protection.
Et à 15 ans, elle accepte que vous regardiez ses messages?
Oui, et puis en plus de ça, j'ai l'application Family Link qui me permet de gérer les téléphones à distance.
Et qui vous dit qu'elle n'a pas un TikTok sur le portable d'une copine? Parce que moi, je les vois, les gamins. Hein.
Alors moi, je vais être totalement transparent. Je suis animateur de soirée en plus de cuisinier. Donc j'ai un TikTok, on va dire professionnel, et c'est justement mes filles qui le gèrent.
Ah. Oui, donc vous les avez éduquées à utiliser les réseaux sociaux?
C'est ça. Après, elles ont
pas Facebook,
elles ont
pas tout
ça. Mais oui, elles ont WhatsApp, elles ont TikTok aussi. Et j'arrive de temps en temps, je jette un œil.
Mais en fait, la protection, c'est ni du flicage, ni de la violation de l'intimité des enfants, c'est de la protection bienveillante. Parce que depuis des semaines, on est en train d'expliquer que on a énormément d'ados à la dérive. On connaît le nombre de jeunes qui se suicident dont les parents ne savent même pas la raison pour laquelle ils se suicident.
Et
ils ont même pas vu le mal-être. Et là, on demande, parce qu'il y a un nouvel outil dans une génération où franchement, ça peut être le meilleur comme le pire. On dit aux parents, écoutez, quand même, soyez quand même vigilants. À quelle heure vos enfants rentrent, est-ce qu'ils ont une activité sportive, c'est-à-dire que l'éducation en général, elle englobe aussi l'utilisation d'un outil qui peut leur offrir le meilleur comme le pire.
On est dans le fantasme, de vouloir tout contrôler. Je termine. Okay. Moi, je suis d'une génération, il n'y a pas le portable. Quand on sortait de la maison, les parents ne savaient pas où tu pouvais leur dire je jouais avec les copains et tu faisais un peu ce que tu voulais parce que de toute façon, les parents ne contrôlaient pas.
Donc
ça marchait sur la confiance, sur des règles.
C'est les mêmes mêmes enfants
aujourd'hui?
Est-ce que t'as les mêmes
aujourd'hui
enfants?
Aujourd'hui, bah, je sais pas, je pense que mes enfants sont pas très différents de ce que j'étais moi. Mais aujourd'hui, bah, je parle de ce que je connais. Aujourd'hui, on est dans le fantasme de vouloir tout contrôler. On veut des caméras dans les crèches. On veut pouvoir localiser son enfant qui sort de l'école précisément, jusqu'où il va, etc. On veut mettre des puces. Moi, je pense qu'on est en train de créer un truc qui est quand même assez effrayant. Je suis d'accord, le harcèlement, quand ton enfant change de comportement, voir ce qui se passe, peut-être qu'il va pas tout te dire, donc t'essaies de comprendre, d'enquêter, bon, très bien. Mais d'une manière générale, faut quand même un peu foutre la peine aux enfants et pas en faire des personnes traquées par les parents qui veulent savoir à tout prix ce qu'ils font. Quand t'es ado, il faut aussi une part de liberté. Tu fais des choses que les parents ne savent pas. C'est ça aussi grandir, c'est apprendre aussi par soi-même des choses, vivre des expériences.
Moi, je vais te répondre, Olivier. Il s'agit pas de ça. Il s'agit absolument pas de ça. Il est évident que tout ce que t'as dit, je souscris totalement. L'adolescent est libre, il a sa vie, on a tous fait des conneries, il y a pas de problème. Ce dont on parle, c'est qu'aujourd'hui il y a une violence assez inquiétante de la part d'enfants dont on ne soupçonnait absolument pas qu'ils allaient commettre un certain nombre de délits. Et donc, on demande aux parents d'être un peu plus vigilants, non pas de passer 24 heures sur 24 sur les téléphones, mais d'inclure dans cette protection et dans cette surveillance, même de loin des enfants, le téléphone qui peut être une source de réparation ou de prévention quant aux actes de leurs enfants. C'est tout. Ça ne veut pas dire que 80...
Le profil des mineurs, là, qui ont massacré la petite Samara, qui ont tué... qui ont tué Philippe. Pardon, je pense que si les parents avaient fouillé dans le portable, ça changeait rien.
Attends, qu'ils avaient des comportements violents, d'insultes,
etc. Je vais te dire un truc. Les gamins où j'interviens, même en dehors du portable, ils sont violents. Je te jure. C'est pas le portable.
On fait croire que c'est le portable qui rend violent.
Non, mais ça donne des indications.
Que la première des protections pour les parents, tu parles, Olivier, de dire il faut leur laisser leur espace de liberté, est-ce que quand tu leur files à 11 ans, à 10 ans, ans un ordinateur d'une telle puissance avec accès illimité TikTok, à WhatsApp, toi qui crée les propres causes de leurs problèmes?
Didier, excuse-moi, tu peux pas tout leur donner puis ensuite je vais fouiller, tu n'es pas obligé de tout leur donner.
Et c'est exactement ce que je veux dire,
tu mets un portable qui n'est pas le dernier portable.
Oui.
Tu mets pas
accès illimité à l'internet. Il y a quelques applis où ils n'ont pas le droit d'aller.
Confiance. Et t'as pas besoin d'aller.
Je suis plutôt pour cette solution.
C'est la vie merveilleuse. Ça.
Xavier, Jonathan, merci de vos témoignages.
Je pense que dans l'éducation, tu peux inclure ça, de dire ok, t'as un portable, mais t'as pas droit.
Moi, je pense que les parents sont toujours en fantasme, qui vont tout surveiller de leur enfant.
On va continuer avec Mathieu. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour à tous. Bonjour les grandes gueules.
Mathieu,
bonjour.
Vous avez entendu Xavier, Jonathan, Blandine, qui arrivent à dialoguer, à regarder ce qu'il y a dans le portable de leurs enfants. Vous êtes directeur de collège en plus.
Exactement.
D'accord. Parent d'ado.
Exactement, les deux.
Alors, comment faites-vous pour contrôler déjà vos enfants? Après, on verra ceux du collège, mais vos enfants.
Alors moi, j'ai deux enfants de 12 et 16 ans. Donc ma fille de 16 ans, j'avais installé il y a quelques années un logiciel Family Link, hein, pour pas le nommer. Que j'ai désactivé à partir du moment où elle a eu 15 ans, parce que je me suis dit qu'elle était suffisamment grande pour gérer toute seule cet outil-là. Mmh. Mon fils de 12 ans, c'est plus compliqué. Il a plus de mal à gérer cette liberté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très 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 restrictif. J'ai désactivé Google, enfin etc. pour faire en sorte qu'il n'ait pas accès à des choses auxquelles il n'a pas à avoir accès. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me rends compte dans mon métier de l'impact que ça peut avoir. Moi, j'ai géré cette année une situation très compliquée sur un réseau social. C'est une affaire que j'ai déposée à la gendarmerie parce que c'était des faits quand même très 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 graves. Et je suis absolument effaré du fait que aucun des parents, ou quasiment aucun des parents que j'ai contacté pour signaler ce problème-là, ne jetait un œil sur le téléphone de leur enfant. Et on parle d'élèves qui ont 13 ans, 13 ou 14 ans, quoi.
C'était quoi ces faits graves qui se passaient sur...
C'est des vidéos insoutenables. J'ai regardé 5 secondes d'une parce que c'était pas possible, quoi.
Attends, monsieur, allez-y. En fait, c'est parce que vous avez enlevé des applications.
Exactement.
Et les autres parents qui sont complètement comme dit Olivier, tu mets pas Google, tu mets pas certaines
pas toutes les applications.
Voilà.
Non, c'est ça. Après, il y a Google, il y a la question des réseaux sociaux. Aujourd'hui,
Instagram, TikTok,
Snapchat, toutes les classes aujourd'hui quasiment de France ont un groupe Snapchat ou un groupe WhatsApp qui est absolument hors de contrôle. Quand je dis hors de contrôle, moi, en tant que chef d'établissement, je ne valide pas l'utilisation de ces choses-là, parce que nous, on a d'autres dans l'espace numérique de travail, etc. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, bah, il se passe un peu tout et n'importe quoi. Et moi, je suis très surpris. Enfin, il y a une loi, il me semble, qui doit dater l'année dernière, qui dit que normalement, un jeune avant 15 ans, il n'a pas accès aux réseaux sociaux, et qu'après 15 ans, c'est avec l'accord parental.
Ouais,
je ne suis pas exactement sûr de cette chose-là.
Moi, j'ai une question à vous poser, Mathieu.
C'est sûr que c'est que les réseaux sociaux, enfin les fournisseurs de réseaux sociaux, personne ne vérifie rien. Quoi.
Mais pardon,
J'ai une question, Mathieu.
Oui.
L'éducation nationale, elle permet la création de groupes Snapchat de classe, de collège.
Elle ne permet rien du tout.
Ah.
C'est les élèves qui, entre eux, créent ces groupes-là.
Ah, d'accord. Okay.
Et donc,
et
nous,
c'est
effectivement,
pas en soi,
après,
d'ailleurs,
nous...
un mal. Je veux dire,
non,
c'est
ça
un
peut
outil
avoir
qui est utilisé.
C'est utilisé correctement.
Mais Mathieu, j'ai entendu la sénatrice Agnès Evren LR qui, elle, voulait l'interdiction des portables au collège. Et donc, c'est-à-dire qu'on arriverait à l'entrée, on mettrait son portable dans une boîte, et on récupérait le soir. C'est ingérable?
C'est ingérable. Non, mais enfin, vous imaginez la logistique qu'il faudrait par rapport à ça, c'est juste pas possible. Après, c'est pas le problème en tant que tel du portable. Moi, je sais que la plupart de mes élèves, ils ont un téléphone avec eux. Moi, je fais en sorte qu'ils ne le sortent pas.
Ils l'éteignent,
ils le gardent dans leur sac.
Je suis désolé, avec un système de casier, moi, je connais des écoles, enfin, les lycées en particulier, il y a des casiers, les gamins, ils mettent le portable dedans, et point barre. Et s'ils sont attrapés pendant le cours, je peux vous assurer que...
Mais Mathieu...
Oui, après, vous savez, vous venez avec un vieux téléphone que vous placez dans le casier, puis vous gardez le vôtre avec vous. C'est pas très compliqué non plus.
Mais Mathieu, en tant que directeur de collège, est-ce que, en début d'année ou régulièrement, vous faites une prise de parole pour dire attention préventive, voyez, sur les réseaux sociaux? Oui.
Évidemment, oui, bien sûr. Et il y a même pas mal d'associations qui peuvent intervenir sur ce sujet-là et qui font les choses très très bien. Après, moi, voilà, je rappelle et je le rappelle systématiquement plus aux parents d'ailleurs qu'aux élèves, en disant bien, allez voir ce qui se passe. Après, c'est de l'éducation, en fait, de la co-éducation par rapport à ça.
Mais justement,
et allez voir ce qui se passe et allez regarder.
De la rééducation de parents même. Mais justement, Mathieu, dans la cour de récré, au collège, est-ce que les jeunes, les enfants, les élèves, ils sont sur leur portable ou pas?
Non, surtout pas.
Interdit.
D'accord.
En tous les cas, il faut pas qu'on le voit.
Bah voilà. Hein?
Le fond cachette. Quand les parents, pour répondre à des SMS envoyés par qui? Par les parents.
Ah oui,
pourquoi les parents donnent un portable à leur enfant au collège? C'est parce qu'ils se disent grâce à ça, je sais où il sera, mon fils. C'est pour ça que.
Non, mais parce que aujourd'hui toute la question le portable, il est interdit au collège. C'est-à-dire on peut l'amener mais il n'est pas allumé.
L'usage du téléphone qui est interdit.
Pareil au lycée.
Et comment vous arrivez à le faire respecter? Comment vous arrivez à le surveiller?
Priori, c'est un problème puisqu'on flique trop les mômes.
Après c'est de la discussion, c'est de la prévention.
Tiens, tu vois, c'est ce qu'il dit.
C'est parfois de la confiscation, ça peut arriver. Ou effectivement, sur une première fois on récupère le téléphone, on le rend le soir, et puis sur une deuxième fois on fait venir les parents.
Mais justement, Mathieu, parce que vous êtes directeur d'un collège, donc le collège c'est quoi? C'est 12, 16, 12, 15, c'est ça?
Ouais, c'est 11-15, ouais, c'est ça.
11-15, bon. Est-ce que sur les portables, il vous est déjà arrivé de voir vous l'avez évoqué d'ailleurs, mais des vidéos insoutenables, pornographiques, qui a nécessité votre intervention, etc.
Non, mais après, c'est très compliqué parce que on n'a pas normalement à aller voir ce qui se passe sur les téléphones. Et d'ailleurs, quand on récupère un téléphone d'un élève, on lui demande de l'éteindre devant nous. Parce qu'on n'a pas à aller voir ce qui se passe.
D'accord, de leur poser la question, de leur dire, j'ai entendu dire qu'il y avait un groupe de harcèlement, j'ai entendu dire que vous postiez des photos ou des vidéos, ça, c'est par le dialogue que ça passe pour essayer
de
savoir.
Exactement, et là où c'est très compliqué, c'est que c'est des choses qui se passent en dehors de l'établissement et qui nous revient de gérer puisque ça a des conséquences au sein de l'établissement.
Et
là, c'est compliqué.
En tant que directeur d'école, aussi l'observation du comportement des enfants. Personnellement, moi, quand je vais dans les hôtels où il y a plein de gosses, quand je vois un gosse qui est tout seul ou un gosse qui est bizarre, je le vois pas à travers son portable, je le vois à travers
son attitude,
quoi.
Merci Mathieu, merci de ce témoignage, monsieur le directeur de collège dans l'ouest de la France. Alors, fouiller dans le portable des ados, on a eu une belle discussion avec tous vos témoignages. Merci d'avoir été présent comme ça au 32-16. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre Est-ce qu'il faut fouiller? Oui, il faut fouiller à plus de 80%. Voilà, c'est verdict sans appel.
Ils vont parler en code après, les jeunes. Tu les connais pas, toi.
Allez, dans un instant...
Deux portables.
Oui, voilà, c'est ça.
Dans un instant, on s'en fout pas. Et ensuite, à 10h, on parlera de l'affaire Kenji Girac, voir comment elle se développe. À tout de suite.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, trio de GG aujourd'hui, Lina Dumont, intervenante sociale, Didier Giraud, agriculteur, éleveur de bovins en Saône-et-Loire, et puis nous sommes avec Zora Habitant, cadre de la fonction publique. Il est 10h moins le quart, on va voir si les GG s'en foutent ou pas de ce qu'a préparé Anaïs Sainz.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Un club de football amateur de l'Hérault au cœur d'une polémique. Il est soupçonné de communautarisme. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Zora?
On s'en fout pas.
Elina?
On s'en fout pas.
Didier?
On s'en fout pas.
C'est le club de Sète Olympique qui est visé par la préfecture de l'Hérault. L'agrément a été retiré à cette association sportive dans le cadre de la lutte contre le séparatisme et le communautarisme. C'est ce qu'explique la préfecture sur le réseau social X. En cause, le choix délibéré du Sète Olympique de ne pas développer le foot féminin. La préfecture pointe aussi et surtout le logo du club apposé sur le maillot des joueurs. Le logo, c'est le croissant et l'étoile, c'est deux symboles emblématiques de la religion musulmane. Plus d'agrément donc, ça signifie suppression des subventions de l'État et fin également de la mise à disposition des équipements sportifs de la commune. Le club conteste cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier. Pourquoi on s'en fout pas, ma chère Zora?
Alors imaginez cet Olympique avec une croix. Je me dirais que c'est un club de football catholique. Voilà, j'aurais pas spécialement de jugement, mais je me dirais que c'est un club de foot religieux. Donc là, c'est le cas. Mais le pire, c'est de ne pas vouloir développer une section de football féminin. Donc ça veut dire que ces gens-là appliquent sur le sol français des codes sociaux qui sont des codes divins. Ils considèrent que d'avoir des filles en short ou en foot, ça pose des problèmes de relations avec les garçons. Parce que ces gens-là en sont encore là. En fait, ces communautaristes pensent que la question de la fille mélangée avec les garçons, c'est un problème. Alors que dans une société comme la nôtre, c'est naturel. Mmh. Ça fait partie de nos codes à nous, de notre vie en société occidentale. Donc voilà, c'est bien fait pour eux, c'est mérité. On fait pas de prosélytisme dans le sport. Et on ne mélange pas sa foi, sa pratique avec quelque chose de républicain et quelque chose de collectif qui plus est bénéficie de subventions publiques.
Didier ?
Écoute, oui, le logo du club, c'est clairement un club religieux. C'est plus un club de sport, c'est un club religieux, quoi. Quand t'as ce logo-là, moi, j'ai connu le temps où les jeunes du judo chez moi, jusqu'à 12 ans, se douchaient ensemble, où l'entraîneur se douchait avec les jeunes qu'il avait. Moi, je me suis douché toute ma carrière de rugbyman avec mon entraîneur adulte. Quand je vois aujourd'hui où on en est...
Tu veux nous en parler, Didier ?
Eh ben, écoute... c'était quelque chose de complètement naturel. Tu veux que je te dise, j'ai un rapport à la nudité qui est complètement différent de mes autochtones parce que j'ai vécu ça.
Maintenant,
quoi.
Il passe ses vacances à Montalivet.
Mais tu peux le tourner en dérision, Olivier. Mais tu vois, par exemple, mon fils qui a été rugbyman depuis tout petit, qui venait à la douche avec nous quand il avait 3 ans. J'exagère, 5 ans, 6 ans, quand je joue au rugby, il a jamais vu la nudité comme la sexualité, quoi.
Je pense que
par rapport à ça,
Et aujourd'hui, dans un vestiaire de rugby.
L'entraîneur ne va plus à la douche, rugby moins, mais au foot, les mecs qui sont entraîneurs au foot me disent, il y a 85% des gamins, soit ils se douchent avec un caleçon, slip, soit ils ne se douchent plus, quoi.
Ouais.
Ils ne se douchent plus, ils rentrent du sport sale. Et du coup, voir ce logo-là sur un club de foot, ça me fait quelque chose par rapport à ce que j'ai vécu, quoi.
Bon, moi, je voulais juste te dire ce qui m'embête, moi, dans l'histoire, c'est que c'est les gamins qui trinquent. Parce qu'eux, ils y sont pour rien, c'est les organisateurs, là. Elle est fille.
Il n'y a plus club de foot. Voilà. D'autant que non, mais il doit y en avoir d'autres. Des clubs
on enchaîne.
De
bon, les GG, le bulletin de paye qui sera bientôt simplifié. On va passer de 55 lignes actuellement à une quinzaine. On va passer peut-être de trop d'infos à passer. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Ah, moi, je m'en fous totalement.
Ah bon? Ah, mais Elina?
Non, moi je m'en fous pas.
Didier?
Ouais, tout ce qui s'appelle le maire, je m'en fous, c'est du pipeau.
Ah, voilà, c'est...
Non, mais c'est du pipeau, c'est du pipeau, c'est tout du pipeau, il ne se passera rien.
C'est Bruno Le Maire qui présente ce matin au Conseil des ministres son projet de loi sur
la situation administrative. Moi, c'est pas le nombre de lignes qui me pose problème.
C'est le pourcentage.
Non.
C'est le chiffre à la fin.
Non. Oui, je pourrais dire ça aussi. Mais c'est. Alors, URSSAF, je sais ce que c'est, assurance maladie, mais il y a plein de trucs, CSG, je sais ce que... Mais il y a plein de...
Abracadabra, on va te les faire disparaître.
Tu sais pas ce que c'est. Moi, c'est ça qui... C'est comme ma quittance de loyer. J'ai appelé l'autre fois, je dis, qu'est-ce que c'est, taxe d'hiver? La fille au téléphone de mon bailleur me fait, bah, écoutez, je vais m'enseigner. Non, mais... Et je paye. Moi, c'est ça qui m'embête le plus. C'est de pas comprendre...
Moi, je crois que ce qui embête le plus les salariés, c'est la différence entre le brut et le net.
Oui, c'est pas le nombre de lignes.
Je crois que ce qui embête le plus l'employeur, c'est qu'il verse 4 000 à son salarié qui ne touche que 2 000 à la fin. Et donc, peut-être que c'est bien de simplifier, mais je pense que c'est... Et en plus,
il se passera rien.
Ça fait 20 ans qu'on nous explique le choc de simplification. Ça fait 20 ans que droite et gauche et maintenant macronisme nous expliquent qu'on va simplifier. Et on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu autant d'articles, de lois, et jamais eu autant de décret au journal officiel, c'est-à-dire que plus on dit qu'on va simplifier, plus on invente des normes, des lois, etc. Et là, ce qui est drôle, c'est que souvent, on prend une loi pour supprimer une loi. Donc,
t'imagines dans le social, hein, toi tu connais bien.
On enchaîne.
Et puis la solution pour rester en bonne santé, les GG, le sport, l'alimentation équilibrée, bien sûr, mais pas que. Un remède est infaillible, c'est ce que démontre une étude allemande très sérieuse. Les câlins permettraient de rester en pleine forme. Meilleur moyen de lutter contre l'anxiété, la douleur ou encore la dépression.
Là, c'est pas pour moi, je suis désolée.
Est-ce qu'on s'en fout pas, Zora?
Non, on s'en fout.
Et qui aime pas les câlins? Pas de câlins, moi je veux pas.
Oui, Elina n'aime pas du tout.
Ah, je m'en fous
pas.
Didier, le contact physique atténuerait bien des maux chez les adultes et les enfants. Les bras parentaux sont bien plus apaisants et réconfortants que ceux de n'importe quel autre individu. Chez les adultes, plus étonnant, c'est l'inverse. Être câliné par un ou une inconnue provoque les mêmes bénéfices que si on
étreignait
un ami. Ouais, avec consentement, merci.
Avec consentement ou un amoureux. Bref, prenez-vous dans les bras.
C'est Zora.
L'amour, c'est la vie. Bah oui, non, mais les câlins, les bisous, dire je t'aime.
Toi, tu t'aimes bien les câlins?
Ah, mais moi, j'ai vécu que comme ça. Donc, c'est ma vie, c'est comme ça.
T'as beaucoup câliné tes enfants?
Je câline beaucoup mes enfants.
En fouillant leur portable discrètement.
Ah oui,
mais ils disaient, oh là là, ça c'est très agréable.
Olivier, merci Olivier. Un câlin à Zora. Voilà.
Non, mais oui, mais c'est très important. Ça fait partie de. Bah, moi, ça m'a sauvé. L'amour, ça sauve. Les câlins, ça sauve. Les bisous, ça sauve. Ça donne de la force, ça donne du courage, ça donne des étoiles dans les yeux.
Bah, moi, j'ai eu tout ça sans câlin.
Je sais pas comment c'est vivre sans tout ça.
Vous êtes affectueux, pas toi, Elina.
Ah non, moi, je veux même pas qu'on me touche.
Pourquoi? Il faut expliquer pourquoi, pour ceux qui ne le savent pas.
Alors, je le sais avec tout le travail, mais évidemment, moi, dès l'enfance, j'ai été quand même violentée sexuellement. Vraiment. Et donc, moi, là, c'est... Et d'ailleurs, il y a plein de femmes comme moi. Hein, je ne suis pas la seule.
C'est un traumatisme,
Ah ouais, moi, c'est... Même encore aujourd'hui, je peux...
Didier, tu câlines tes vaches?
Ah.
Mais ça se câline, les vaches.
Non, mais tu vois, il y a plein d'explications dans cette étude. Il y a aussi l'activité sexuelle qui est bon pour tout ce qui est cardiovasculaire.
Non, oui, ça c'est la masturbation.
L'activité sexuelle, c'est
des bisous,
c'est comme
des
de l'entraînement,
bisous.
Quoi. Hein, c'est un entraînement. C'est de l'activité physique. Donc voilà.
Et la journée du câlin.
Mais les câlins sur le côté psychique, c'est à mon avis important. Écoute, oui, plus que je l'ai pas été à certaines périodes de ma vie, et j'ai certainement que. Voyant arriver la tombe à grands pas, tu relativises. Oh non, mais quand même, globalement, tu relativises sur ce qu'était ta vie.
Je viens d'avoir 50 ans.
C'est pour ça
qu'il ne les fait pas.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Faites des câlins, matin, midi, soir. Non, mais
à 50 ans, tu te rends compte que la vie, elle défile et.
Tu
ne fais pas tout le temps les mêmes erreurs.
À ses enfants.
Ses enfants, c'est important.
Mais vous savez, le pire, c'est que je suis pareil avec les animaux. Je câline pas non plus les animaux.
Non, mais c'est important. C'est bizarre. C'est
parce
important.
Que par exemple, Anaïs, elle câline une seule personne, c'est Choupi.
Il y en a une qui m'a câliné hier derrière la barrière. Elle m'a câliné comme une fois, je te garantis.
Voilà, faites des bisous et des câlins. Et autant que vous pouvez.
Câlinez-moi.
câlinez-moi. Oh là là, il y a eu un appel là, vous avez pas entendu?
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les derniers développements de l'affaire Kenji, le nettoyage social qui continue à Paris, on sort la misère de la capitale parce que les Jeux Olympiques approchent. Et c'est Elina Dumont, notre intervenante sociale, qui en est témoin. À tout de suite au 32-16.